Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Saint-Pétersbourg, l'ancienne ville impériale la plus touristique de Russie, frappée en plein cœur lundi et en deuil aujourd'hui. L'enquête se poursuit après l'explosion d'une bombe dans le métro qui a fait au moins 14 morts. Le dernier attentat de cette ampleur, c'était il y a 7 ans. Depuis, le pays a bien été victime de plusieurs attaques, mais elles s'étaient toutes produites au sein des républiques du Caucase. Sauf que depuis l'intervention russe en Syrie, Daesh a durci le ton et le suspect principal est un jeune originaire d'Asie centrale, Étienne Bouche.
Il s'appelle Akbarjon Jalilov. Il est né en 1995 à Osh, au Kyrgyzstan, et à la nationalité russe. Selon les services secrets du Kyrgyzstan, c'est cet homme qui serait responsable de l'explosion survenue lundi dans le métro de Saint-Pétersbourg. Le Kyrgyzstan est une ancienne république soviétique de 6 millions d'habitants. Situé en Asie centrale, ce pays fournit un fort contingent de djihadistes à l'organisation État islamique. La menace terroriste est une préoccupation majeure dans cette région. Là-bas, les mouvements islamistes existent depuis plusieurs décennies, mais ils se sont ravivés depuis la disparition de l'Union soviétique. Les régimes politiques de ces pays sont autoritaires et ils instrumentalisent cette menace pour légitimer leur pouvoir. Moins de liberté pour plus de sécurité, la majorité de la population semble souscrire à ce contrat social. Les pays d'Asie centrale regardent le chaos au Proche-Orient avec une grande inquiétude. La Russie est directement concernée par cette menace islamiste, car les ressortissants d'Asie centrale n'ont pas besoin de visa pour venir sur son territoire. De nombreux Ouzbeks, Kirghiz, Tadjiks vivent et travaillent dans toute la Russie. La mise en place d'un système de visa avec ces pays est un sujet qui est régulièrement abordé dans le débat public. Au mois de février, Vladimir Poutine dévoilait des informations du service russe de renseignement militaire. Environ 5000 ressortissants des pays d'ex-URSS combattraient actuellement en Syrie, mais aussi 4000 citoyens russes, majoritairement issus du Caucase.
C'était l'une des figures emblématiques des rues de Palerme, il y a encore quelques années, le cireur de chaussures. Le métier avait disparu, mais la Confédération des artisans de Sicile a décidé de le remettre au goût du jour en lançant le projet Shoeshine 2.0. Personne n'y croyait vraiment et pourtant l'initiative a rencontré un succès inattendu. Bottines en cuir aux pieds, Cécile de Barge a donc participé à l'un de ses cours de cirage de chaussures.
La punta.
Allora, la spazzola deve scivolare sopra le scarpe.
Alors, la brosse doit glisser sur le dessus de la chaussure, comme l'archer sur le violon.
Dovete essere con un movimento lungo.
Vous devez faire un mouvement long, détendu, rapide, mais superficiel.
Ma superficiale.
Sous les coudes de brosse d'Angelo, un mocassin de cuir marron, scruté, observé dans les moindres détails par une quinzaine de paires d'yeux. Technique de cirage, conseil pour alpaguer les clients, non des crèmes à appliquer sur le nubuck plutôt que sur le cuir. Le cours est un peu plus sérieux. Et aux manettes, c'est l'un des derniers maîtres cireurs de chaussures du pays, Angelo Illustra Scarpe, venu d'Imola, en Émilie-Romagne.
C'est à vous d'alimenter la machine, ça ne se fera pas tout seul. Impliquez vos amis, vos familles. Le paysan, par exemple, le sait, une fleur, elle ne va pas pousser au milieu des champs, elle a besoin d'être arrosée, chouchoutée, rempotée.
Si Angelo joue des métaphores, c'est parce qu'il sait que son cours est l'avant-dernier. Dans quelques semaines, les 15 étudiants deviendront des cireurs de chaussures officiels, l'occasion pour celui qui a lancé le projet de leur rendre une petite visite et de motiver les troupes.
Buongiorno Angelo. Come stai?
Bene, tu?
Bene, bene, grazie.
Mi fa piacere.
No, ero in un convegno, ho lasciato per venire qua e tornerò al convegno.
Nous, on amène de la nouveauté avec ce projet, en Italie, en Europe, partout. Et la nouveauté qu'on apporte, c'est qu'on fait de l'art.
Nunzio Reina, le président de Confartigianato, la confédération d'artisans à l'origine du projet Shoeshine, est clair. Le prestige d'un métier, c'est le savoir-faire au travail. Pas de quoi rougir donc à être cireur de chaussures, l'essentiel c'est la passion. Le discours a séduit bien plus que prévu. Giuseppe est RPT par exemple à 28 ans, il vient de la province de Naples à plus de 700 km de là.
À l'origine oui, je cherchais du travail.
Moi, normalement, je suis pizzaiolo, mais peut-être que je peux essayer autre chose, même si au début, on ne peut pas dire que c'était une passion. Et puis, petit à petit, ça a commencé à vraiment m'intéresser. J'ai découvert tous les produits, le plaisir de voir les choses briller.
Giuseppe n'est pas un cas isolé. Dans le groupe, 10 hommes et 5 femmes de 21 à 65 ans trié sur le volet par Nuncio Reina, le président de Confartigianato.
Dans la première phase de l'opération, on a reçu 75 CV. Et puis, une semaine plus tard, quand la nouvelle en fait, a commencé à se répandre un peu, on en a reçu 120 autres.
Ce barbier de métier se félicite de voir retourner les jeunes vers l'artisanat, mais il sait aussi que le succès de l'opération cache un mal profondément ancré en Sicile.
Aujourd'hui, à Palerme, pour un diplômé d'université, travailler dans un call center, c'est déjà une victoire, même si c'est pour 400 euros par mois.
Ces diplômés, on en trouve dans le groupe. L'un se reconvertit après une carrière dans la pub, un autre a un diplôme de sciences politiques. Valentina, elle, a travaillé presque uniquement en bijouterie, malgré son diplôme en langues étrangères.
J'ai immédiatement envoyé mon CV et mon mari aussi. On est dans le même bateau, lui et moi. Et c'est celui du chômage des jeunes, une vraie plaie dans notre pays, surtout dans le Mezzogiorno, dans le sud.
Avec une moyenne de 10 paires de chaussures par jour, à 5 euros le cirage, plus les éventuels pourboires, la jeune femme de 36 ans pourrait gagner au moins 1000 euros par mois.
L'objectif, c'est de devenir de vrais professionnels, d'acquérir un vrai savoir-faire, de ne pas se contenter de cirer des chaussures, mais d'offrir un vrai service au client, des techniques de cirage particulières, de lui proposer de changer ses lacets. Ce métier doit être remis au goût du jour.
Pour retrouver les 15 nouveaux cireurs de chaussures de la ville, les clients pourront donc se connecter à l'application qui sera lancée et les géolocaliser sur le champ. Premier coup de brosse à cirer prévu avant l'été à Palerme et dans les prochains mois dans le reste de l'Italie. Vérone, dans le nord du pays, est la première à répliquer l'initiative palermitaine et plusieurs autres grandes villes sont intéressées.
Les jours des émissions matrimoniales sont peut-être comptés en Turquie, pourtant culte hein, sur les chaînes privées. Ces programmes promettent à leurs candidats de trouver l'âme sœur en direct, avec quelquefois des différences d'âge énormes entre les candidats. Les scandales se multiplient, ce qui agace de plus en plus le gouvernement. Anand Lauer nous appelle d'Istanbul.
Coup de poing, coup de pied, insultes, certains sont prêts à aller loin pour trouver leur future épouse ou simplement se faire remarquer. Cette scène de bagarre filmée dans le studio d'une émission matrimoniale n'a rien d'exceptionnel. La présentatrice, une star du petit écran turc, fait mine de s'exaspérer pendant qu'un bandeau publicitaire appelle à ne surtout pas zapper pour savoir lequel de ces coqs la jeune femme à marier va consentir à épouser. Elle n'aura pas manqué d'abord de le questionner sur ses revenus et sur son patrimoine. Ce genre de programme, diffusé tous les jours par des chaînes privées turques, rassemble jusqu'à 3 millions de téléspectateurs. Une course à l'audience alimentée par les disputes, organisées diront certains, qui accusent les émissions de recourir à des acteurs, par des crises de larmes et par des cérémonies en bonne et due forme, puisque les unions sont célébrées en direct sur le plateau. Les téléspectateurs, femmes au foyer surtout, adorent, mais la classe politique commence à en avoir assez. En cause notamment l'écart d'âge prononcé de certains candidats. Un homme de 71 ans pour une femme de 29 ans, ou, bien pire, un prétendant de 45 ans pour une adolescente de 15 ans. La chaîne avait prétendu que la jeune fille avait triché sur son âge pour participer. Régulièrement frappés d'amendes colossales, ces programmes de télé-réalité pourraient ne pas survivre longtemps au scandale à répétition. Des membres du gouvernement ont souhaité leur interdiction. Des députés d'opposition, des féministes, des syndicats, des téléspectateurs réclament des mesures sévères, jusqu'à la censure s'il le faut. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a récemment convoqué les patrons de chaîne pour les mettre en garde. Quant aux présentatrices, elles défendent bien sûr leur boutique et brandissent les chiffres des unions et des enfants qui seraient nés, selon elles, grâce à leurs bons offices.
Le problème aigu est pointé du doigt depuis des années déjà. Il plombe l'économie grecque, c'est l'évasion fiscale massive dans le pays. Alors, les services du fisc se sont dotés d'un nouveau logiciel un peu spécial pour lutter contre ce fléau, annonce il y a quelques jours du ministre des Finances, Euclide Tsakalotos. Charlotte Sednar, vous êtes notre correspondante à Athènes, bonjour.
Oui, bonjour.
Le gouvernement sera désormais capable de comparer de façon automatique les montants versés sur les comptes en banque grecque avec les revenus déclarés. Alors, peut-on parler d'avancées importantes dans la lutte contre l'évasion fiscale ?
Oui, tout à fait, car jusqu'ici, la collecte des informations se faisait au cas par cas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un contrôleur des impôts voulait en savoir plus sur un compte en banque précis, il devait faire une demande à la banque qui lui envoyait ensuite les documents. Si la personne avait plusieurs comptes dans différentes banques, les informations n'étaient pas toutes au même format. Et surtout, cette collecte prenait entre 6 et 10 mois. Désormais, grâce à ce logiciel développé au sein du ministère des Finances, les informations seront transmises automatiquement. Donc en quelques minutes, les services des impôts pourront savoir directement combien d'argent il y a sur un compte donné, voir les transferts et savoir s'il y a une différence importante avec la déclaration d'impôt.
Mais il ne s'agit évidemment pas de contrôler l'ensemble des comptes de la population.
Oui, effectivement, il s'agit d'identifier les cas suspects parmi un certain nombre de personnes déjà identifiées comme prioritaires. Donc, le gouvernement compte se concentrer sur les comptes de 1,3 million de personnes. Elles sont considérées comme plus susceptibles d'évasion fiscale car elles ont fait des virements à l'étranger ou parce que leurs noms apparaissent sur des listes de suspects connus, comme la liste Lagarde. Elle a été transmise par la France à la Grèce en 2010 et elle n'a presque pas été exploitée jusqu'ici.
Le ministère des Finances pourra remonter jusqu'en 2002. Mais on touche ici, Charlotte, aux limites du logiciel.
Oui, alors ce sera possible pour ces 1,3 million de personnes. Avant 2011 et le vote d'une nouvelle loi, le service des impôts n'avait pas accès aux données bancaires. Mais il y a un autre problème qui se profile à l'horizon pour le gouvernement. La Cour de cassation doit décider prochainement jusqu'à quand, dans le temps, les audits du service des impôts sont légaux. Or, il se pourrait que les services des impôts ne puissent pas remonter jusqu'en 2002. La décision devrait tomber dans les prochains mois.
L'évasion fiscale, c'est un véritable fardeau bien connu depuis longtemps en Grèce.
Tout à fait connu, mais pas pratiqué par tous. Il faut rappeler que les salariés sont en majorité prélevés à la source. Ce sont donc principalement les travailleurs indépendants très nombreux qui peuvent échapper à l'impôt. Et c'est un phénomène très difficile à évaluer. Le cabinet d'audit financier Ernst & Young en a fait une estimation en juin de l'année dernière. Pour lui, l'évasion fiscale en Grèce représenterait entre 6 et 9% du produit intérieur brut. Et selon ce rapport, à l'origine du problème, il y a l'absence de clarté dans le système fiscal, l'augmentation continue des taxes et des impôts, et l'absence de volonté politique ou encore le manque de moyens. Or, avec ce nouveau logiciel, les comptes suspects pourront être certes identifiés plus facilement, mais le nombre d'inspecteurs des impôts qui seront ensuite en charge des audits, lui, reste le même.
Charlotte Stevenard, notre correspondante en Grèce, qu'on retrouve demain dans Accent avec son reportage sur la construction de la première mosquée officielle à Athènes. C'est le plus vieux salon du livre d'Europe. Il est tourné vers les littératures de l'Est. Le salon de Leipzig en Allemagne a encore rassemblé cette année près de 300 000 visiteurs. Une aubaine pour la Lituanie, le pays invité cette année. 26 ouvrages ont donc été traduits et présentés à cette occasion. Un vrai succès. Mais comment un petit pays de 3 millions d'habitants doté d'une langue archaïque a pu se faire connaître ? Marielle Vituro avait fait spécialement le déplacement en Allemagne.
Dans le hall 4 du salon du livre de Leipzig trône au centre une installation avec Lituanie écrit en grand, un petit havre de calme au milieu du brouhaha. Conçu comme une bibliothèque, les ouvrages traduits sont posés dans les rayonnages. Les curieux s'installent sur les marches disposées en escalier pour les feuilleter et grâce aux écouteurs, les lecteurs peuvent plonger dans le lituanien. Laurynas Katkus est l'auteur des Raviolis de Moscou, un essai sur les relations entre les deux pays. Pour lui, le dialogue culturel renforce le dialogue politique.
À travers les livres présentés, il est possible de se faire une idée assez précise de la Lituanie, de son histoire, de ses difficultés et des idées qui traversent la société. Les Occidentaux peuvent aussi mieux nous comprendre. On peut toujours répéter comme un mantra que nous sommes un pays magnifique avec une langue qui l'est tout autant et que notre nature est une merveille, mais en fait ce serait très creux et pas convaincant.
La littérature offre des clés pour comprendre un pays. C'est le cas du Linceul blanc d'Antanas Schkema, traduit en allemand à l'occasion de la foire. Sébastien Googles, le jeune éditeur, s'intéresse depuis peu à la Lituanie. Situation géopolitique oblige.
Avec ce thème de l'exil, Schkema évoque en filigrane le passé soviétique et son système autoritaire. Mais ce n'est pas le seul aspect. Il y a aussi tout un jeu dans le roman avec les chants traditionnels. Ce folklore est typique de la Lituanie et c'est une autre porte d'entrée. Alors évidemment, aucun livre ne peut offrir une compréhension complète du pays, mais il permet d'ouvrir des portes. Par exemple, quand on lit la scène dans laquelle le protagoniste Antanas Garsva est torturé, on comprend les craintes historiques des Lituaniens face aux Russes.
Pour l'événement de Leipzig, 26 ouvrages ont été traduits. Des romans, de la poésie, des essais. Il y a aussi eu des lectures publiques, des concerts, des expositions. La presse allemande s'est emparée du sujet dans des termes plutôt dithyrambiques. C'est donc mission réussie pour la Lituanie. Saskia Drode traduit du lituanien vers l'allemand. Elle a été l'un des artisans de ce succès.
Les Lituaniens sont très soucieux de leur image à l'étranger. Mais qu'est-ce qu'on connaît de la Lituanie en Allemagne? Tout au plus que c'est un petit pays là-bas, au loin, et que les Lituaniens sont réputés pour être des voleurs de voitures ou des chauffeurs routiers. Le Salon du Livre est vraiment une opportunité pour se montrer sous son meilleur jour.
Mais comme le relève Ramita Jonikaitė, journaliste culturelle à la radio publique, la Lituanie ne peut se faire connaître qu'en adaptant son discours.
Il faut savoir mettre en valeur les connexions historiques, culturelles entre les pays. Quand l'auteur Lemonas Briedis a présenté son livre sur Vilnius, il a parlé de la Première Guerre mondiale, d'expériences semblables, de personnalités connues en Allemagne. Et bien sûr, il a attiré l'attention du public.
En Lituanie, le milieu littéraire a manifesté un certain agacement quand il a appris le budget dépensé pour la présence lituanienne au salon de Leipzig. Près de 400 000 euros qui n'ont donc pas été distribués pour l'aide à la publication. Il s'agit pourtant là d'une stratégie payante pour la traductrice Saskia Drude.
Beaucoup considèrent que se présenter dans un grand pays comme l'Allemagne est un tremplin pour l'avenir. Quand les titres sont traduits en allemand, on espère qu'ils le seront dans d'autres langues. Ils sont beaucoup plus accessibles que s'ils étaient traduits en polonais, par exemple.
Maintenant que les lecteurs allemands ont été appâtés, il faut que la Lituanie poursuive sur sa lancée. Travail bien commencé est à moitié effectué, dit le dicton lituanien. Le Salon du Livre de Leipzig a eu aussi un autre avantage, la nouvelle aura européenne de certains auteurs lituaniens pourraient bien leur assurer une nouvelle popularité chez eux.
Alors, il y en a qui écrivent, de vrais auteurs, d'autres paient des nègres pour écrire à leur place. Et puis, il y a aussi ceux qui vendent leurs plumes à des étudiants pour des mémoires ou des thèses. En Autriche, on sait même à quel tarif sont payés ces auteurs de l'ombre. À Vienne, Céline Béal.
1500 euros pour un mémoire de licence, 4000 pour un master. Selon une enquête de l'hebdomadaire autrichien Profil, le business des prête-plumes académiques est florissant. Au point qu'en plus du traditionnel bouche à oreille et des discrètes petites annonces, de véritables agences de ghostwriting ont pignon sur rue. On choisit sa matière, on ouvre son porte-monnaie et hop, l'agence vous met en contact, anonymement, avec un auteur compétent. Universitaire brillant, parfois ancien professeur ou doctorant en manque de fonds, au regard de la loi, ces sous-traitants du savoir sont irréprochables. Seul le tricheur se met en danger, car obtenir un diplôme en soumettant un travail falsifié est illégal. Seulement, contrairement au simple plagiat, il est très difficile d'identifier un travail original livré par un tiers. Fainéantise ou désespoir? Et pourquoi pas la faute aux universités qui laissent les étudiants désemparés, livrés à l'angoisse de la page blanche, sans suivi personnalisé? De l'aide au devoir, il n'y a parfois qu'un pas pour entrer dans le domaine de la triche décomplexée. Avec l'introduction de travaux dits pré-scientifiques dans les lycées, ce sont même parfois les parents d'élèves qui font appel à une agence pour dépanner leur rejeton. Mérite, intégrité, persévérance, des valeurs qui pèsent finalement peu face à la terreur du résultat.
C'est déjà fini jusqu'à demain. Merci de nous avoir suivis à la réalisation Sophie Janin. Vous pouvez nous retrouver sur rfi.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute dans quelques instants de journal.